Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Orientation et réussite des étudiants, tel est le titre du projet de loi sur les modalités d'entrée à l'université qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Un texte très attendu après l'énorme cafouillage de la dernière rentrée qui a vu des étudiants être tirés au sort à leur entrée en licence pour compenser les ratés de feu la procédure APB pour admission post-bac. Aucune autre solution ne pouvant être pire que celle-ci, c'est dans un contexte plutôt favorable que la nouvelle loi va être présentée. D'autant que le gouvernement se garde bien d'utiliser le terme de sélection pour définir les nouvelles modalités. Il n'est même plus question de prérequis. L'inscription à l'université reste un droit pour tout bachelier. En revanche, le conseil de classe au lycée donnera désormais son avis, tandis qu'une solution de formation devra être proposée aux lycéens si ces candidatures ne sont pas retenues. Alors, le principal objectif affiché par ce projet, c'est de lutter contre l'échec en licence, 60% dès la première année, selon Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Un pourcentage qui serait absolument dramatique s'il ne cachait pas une diversité de situations. Car pour de nombreux étudiants, changer de filière en cours de route est davantage un signe de souplesse que de fiasco. Alors faut-il lutter à tout prix contre l'échec à l'université ? Eh bien, c'est la discussion que nous allons mener ce soir en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Georges Haddad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé de mathématiques, président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui compte combien d'étudiants aujourd'hui ?
On les compte plus, mais plus de 40 000, je crois qu'aux dernières estimations, ça dépasse les 42 000, 43 000. Hein, donc, voilà.
C'est une grosse université. Oui. Pour discuter avec vous, Olivier Vial, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'UNI, l'Union Nationale Interuniversitaire, qui regroupe à la fois des étudiants et des enseignants, qui se présente comme la fédération de la droite dans l'éducation. Vous êtes par ailleurs le fondateur du CERU, qui est un think tank qui réfléchit sur les questions liées à l'université.
C'est cela.
Et vous êtes également secrétaire national Les Républicains à l'enseignement privé. Et puis notre troisième invité, Romuald de Baudin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université de Poitiers. Vous avez publié aux éditions du Croquant, c'était en 2013 avec Sophie Orange, « L'université n'est pas en crise, les transformations de l'enseignement supérieur, enjeux et idées reçues ». Bon, on verra justement s'il y a un certain nombre d'idées reçues ce soir qui sont liées à cette question de l'échec à l'université. Georges Haddad, je voudrais qu'on commence la discussion avec vous. Nous sommes le 20 novembre 2017. Je ne sais pas depuis quand les inscriptions à la Sorbonne sont closes, mais est-ce que toutes les demandes qui avaient été formulées par les étudiants pour rejoindre votre université ont pu être acceptées ?
La réponse est claire, c'est non. De toute façon, il est hors de question et nous n'avons pas les moyens d'accueillir tous les étudiants qui souhaitent étudier à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que ce soit dans les domaines juridiques, sciences humaines, sciences sociales, sciences économiques. Malheureusement, l'université Paris 1, comme toutes les autres universités, ne peut pas accueillir tous les bacheliers qui sollicitent une inscription dans notre université.
Et du coup, comment s'est fait le choix pour décider de ceux qui pouvaient y entrer et ceux qui ne pouvaient pas ?
Vous l'avez mentionné, et c'est ce qui m'a mis en colère il y a quelques semaines, et j'ai passé un été assez déplorable, parce que je ne connaissais pas cette pratique du tirage au sort, que je trouve absolument insupportable, pour ne pas dire plus. Et je l'ai découverte, puisque je suis revenu aux affaires universitaires après avoir été président il y a 28 ans, j'en ai été le plus jeune, maintenant je suis le plus vieux.
Et vous y êtes revenu quand ?
Il y a un an et demi à peu près, après un grand parcours mondial pour l'enseignement supérieur à l'UNESCO. Donc ce qui me permet d'avoir une vision un peu peut-être plus large des difficultés et des défis de l'enseignement supérieur et de sortir du cadre national. Mais pour vous dire, c'est le tirage au sort qui a visiblement apporté des réponses. Au niveau de l'inscription à l'université, c'est APB avec le tirage au sort, ce que je trouve scandaleux et ce qui a motivé une colère très forte de ma part.
Est-ce que vous êtes d'accord, et Olivier Vial et Romuald de Baudin, sur ce constat autour du tirage au sort qui va disparaître pour la prochaine rentrée universitaire ? Enfin, en tout cas, c'est ce que promet le gouvernement. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de scandaleux, de désastreux,
Olivier Vial ? Oui, mais nous, ça fait... Alors, malheureusement, on n'avait pas alerté suffisamment fort pour que le président Haddad le remarque, mais ça fait plus de 5 ans qu'on luttait contre le tirage au sort, qui était devenu une pratique qui avait commencé d'abord dans les filières sous tension, comme les filières de STAPS, et qui s'était petit à petit élargie à beaucoup d'autres filières. Et donc, oui, c'est un scandale. Oui, il fallait trouver autre chose. Je crois que malheureusement, on y reviendra. On a inventé une solution encore plus compliquée, et je suis pas sûr qu'elle permettra de résoudre tous les problèmes. Et on va avoir un vrai souci, parce que aujourd'hui, tout le monde sait, les étudiants, que la procédure n'était pas satisfaisante, et donc on avait eu une sorte d'habitude de faire des recours. Et si le nouveau système n'est pas meilleur, on aura une vague de recours à la rentrée qui sera très importante.
Romuald de Baudin, sur cette question du tirage au sort et peut-être de son ampleur.
Oui, alors en tout cas, on peut déjà trouver une raison à la méconnaissance de M. Haddad de ce phénomène. C'est qu'en réalité, et c'est un tour de passe-passe du gouvernement, c'est que cette aussi problématique soit-elle, cette sélection par le tirage au sort, et en fait concerne une minorité d'étudiants qui rentrent à l'université, même si effectivement ça augmente, mais 50 000, bon, on est loin de la majorité. Et 50 000 en plus, c'est les derniers chiffres. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une croissance de cet usage. Mais je trouve un peu exagéré de construire un projet de réforme qui, soit dit en passant, était attendu par tous, hein, quelles que soient les positions, puisqu'il y a effectivement toute une série de difficultés à régler à l'université, mais de faire passer ça sur le dos, d'une part, on en reparlera, hein, donc je ne fais que l'évoquer, mais de 60% d'échecs en première année à l'université, qui là aussi une sorte de construction très critiquable de ce qui se passe dans le premier cycle universitaire, et d'autre part, cette question du tirage au sort qui est présentée comme quelque chose qui serait généralisé.
Est-ce que je dois comprendre dans vos propos, Romuald de Baudin, que ce tirage au sort-là et ce fiasco autour du tirage au sort cette année sert aussi les intérêts de ceux qui voulaient réformer les conditions d'entrée à l'université ?
Ah oui, sans aucun doute. On a depuis des décennies maintenant, hein, des discours qui sont assez identiques année après année. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait frappant quand on travaille comme je le fais sur l'histoire des réformes de l'université, parce qu'on s'aperçoit que depuis en fait le début des années 50 à peu près, on a systématiquement le même discours concernant les dysfonctionnements de l'université, les mêmes critiques, notamment à ce chiffre de 60% d'échecs dans le premier cycle, et les mêmes solutions. C'est-à-dire que progressivement, on se dirige vers une sélection à l'entrée de l'université qui, étonnamment, d'une certaine façon, ne s'est pas faite aussi rapidement qu'on aurait pu le penser, puisque c'est quelque chose qui est revendiqué, non pas par les étudiants et pas non plus par les universitaires, mais en tout cas par toute une série de prises de position politiques qui vont dans ce sens depuis au moins, disons, le début des années 50.
Alors la sélection, elle n'est peut-être pas revendiquée par tous les étudiants, mais par certains, en tout cas ceux qui militent au sein de l'UNI que vous présidez, Olivier Vial. Vous êtes clairement pour la sélection. Est-ce que ce fiasco du tirage au sort, ça arrange, disons, vos affaires?
Bah, disons que ça nous a permis, à un moment donné, de vraiment faire comprendre ce qu'était la procédure de sélection à l'université depuis des années. On a une sélection qui se faisait soit par l'échec, soit de façon totalement aveugle, sans prendre en compte rien, ni des compétences, ni des notes, ni du mérite des étudiants. Et donc, l'exemple du tirage au sort, c'était finalement la concrétisation de ça, puisqu'on voyait bien qu'un étudiant qui avait de bonnes notes, qui voulait faire un projet parce qu'il avait exactement le cursus fait et qu'il avait un projet professionnel très précis, et ben pouvait se retrouver totalement mis de côté juste parce qu'il n'avait pas été tiré au sort, alors qu'un étudiant qui avait choisi une filière un peu par défaut, sans avoir les compétences pour pouvoir y réussir, lui prenait la place. Et ça, effectivement, c'est très dommageable, et c'était le tirage au sort, effectivement, c'est la petite goutte qui a fait tomber le système, mais en fait, c'était tout le système qui fonctionnait comme ça. Tout le système qui était un système de sélection à l'aveugle, sans qu'on sache exactement quelles étaient les compétences, quelles étaient les attendus, les prérequis des diplômes, et du coup, c'était ce système-là qui, finalement, se concrétisait dans le tirage au sort, et c'est effectivement le tirage au sort qui nous a permis enfin de faire comprendre aux gens que c'était un scandale qu'il fallait qu'on dénonce et qu'on corrige.
Mais il y a peut-être une autre piste à envisager pour essayer d'aller contre ces phénomènes-là, puisque s'il y a eu tirage au sort, ou s'il y a la sélection qui est envisagée, c'est parce qu'il y a trop de demandes par rapport au nombre de places disponibles. Georges Haddad, est-ce que la première des choses, ça ne serait pas de dire, bah voilà, on manque et de places à l'université, peut-être aussi d'enseignants. Si la Sorbonne pouvait accueillir, vous disiez tout à l'heure, on a plus de 40 000 étudiants, si vous pouviez en accueillir 50 000 ou 60 000, vous seriez preneur?
Oui, alors, posé comme ça, je réponds oui, mais il faut des enseignants. Et des enseignants, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne se forme pas en deux jours ou en une semaine. Un enseignant, c'est tout un travail de maturation. J'ai même utilisé une formule assez imagée. On ne produit pas un enseignant comme on produit un Big Mac. Je suis désolé, il faut du temps, il faut de la maturation. Je suis devenu enseignant par une pratique qui a été longue. Il m'a fallu des années pour devenir un enseignant.
Mais ça, ça devrait pouvoir s'anticiper, parce que la courbe démographique, on la connaît. C'est-à-dire, on sait combien, a priori, de nouveaux étudiants vont arriver chaque année.
Vous avez raison,
l'an prochain, c'est 40 000
encore. Cette courbe démographique et cette vague démographique n'a pas été traitée comme il le fallait. Ça fait plus de 10 ans qu'on prévoyait cet afflux démographique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait. On a attendu que la catastrophe arrive pour dire, voilà, maintenant, il faut agir. Et je trouve ça scandaleux et insupportable. Je vais même vous dire une chose. Là, vous parlez de l'université, de l'échec à l'université. Mais tout commence au lycée. Et je crois qu'il serait fâcheux et même déplorable de séparer la licence du lycée. Moi, je suis pour un plan que certains appellent le moins 3 plus 3. Pour un mathématicien, ça fait 0. Moins 3 plus 3, donc je le réfute. C'est le L croix L. Lycée, licence. Et je pense que là, maintenant, il va falloir que nous lancions un vrai chantier sur le lien entre le lycée et la licence et la valeur du baccalauréat. Que représente aujourd'hui le baccalauréat ?
Il y a en tout cas un chantier qui est lancé désormais pour réformer le baccalauréat, qui est dirigé par Pierre Mathiot, qui est l'ancien directeur de Sciences Po à Lille. On verra bien ce que ça donnera, mais enfin, en tout cas, a priori, il y a quand même l'idée que ça reste plus à peu près cohérent avec justement ce projet de loi sur l'université. Olivier Vial.
Oui, sur le nombre de places, c'est plus compliqué, puisque malgré le tirage au sort, il y avait 130 000 places vacantes à l'université française. Il y a des places vacantes, parce que tous les un professeur ne vaut pas un Big Mac, comme vous le dites, il faut du temps, mais il faut on ne peut pas non plus dire, on va avoir 10 000 étudiants de plus l'année prochaine, on va créer X nombre de postes, parce qu'en fait, on ne sait pas dans quelle discipline, parce que chaque discipline, il y a aussi une meilleure orientation des moyens en fonction des disciplines, de leur débouché professionnel, etc. Et aujourd'hui, on a des disciplines qui ont cru de façon très importante avec des nombres de postes qui ont été créés ces dernières années, qui aujourd'hui ne rencontrent plus de succès parce qu'elles n'ont pas de débouchés et donc de moins en moins d'étudiants. Et d'ailleurs, c'est un des vrais problèmes que pose ce projet de loi, c'est que ce projet de loi, plutôt que de reconnaître ça et de dire il faut mieux orienter les étudiants, mais aussi mieux orienter les moyens pour aller dans des disciplines, mettre les moyens, les enseignants, les crédits vers les disciplines qui ont de l'avenir, et bien au contraire, on crée un jury rectoral qui fait que ceux qui n'auront pas de place dans les universités, les recteurs pourront les placer sur les places vacantes. Ce qui veut dire qu'on va remplir de force des disciplines qui en fait auraient dû petit à petit voir leur volume se réduire pour aller créer des postes ailleurs dans d'autres disciplines. Et ça, effectivement, c'est un des vrais problèmes, c'est qu'on a encore une fois un manque d'orientation, et l'orientation elle doit se jouer à deux niveaux, à la fois chez les étudiants mais aussi sur les moyens pour les flécher vers les disciplines qui ont de l'avenir et les disciplines qui vont être demandées. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de projeter une évolution démographique et de la concrétiser tout de suite en nombre de postes.
Alors il y a sans doute un problème d'orientation, mais est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi que le fait qu'il y a un tel afflux de bacheliers vers l'université aujourd'hui et que l'université ait quand même du mal à absorber l'ensemble des demandes, ça n'est pas aussi peut-être quand même le signe, Romuald Baudin, que l'université française reste très attractive finalement, sauf à considérer qu'on y va parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas aller ailleurs. Mais est-ce que c'est le cas ?
Oui, alors je réponds rapidement pour dire que oui, elle reste très attractive. Il y a plein de moyens de le mesurer. Il y a toute une série d'indicateurs. Et d'ailleurs, sur ce point-là, les débats sont assez biaisés, puisque quand il n'y a pas assez d'étudiants qui se présentent devant l'université, on dit que c'est la preuve de son dysfonctionnement. Et quand il y en a trop, on dit que c'est aussi la preuve de son dysfonctionnement. Donc en fait, elle a toujours tort, quoi qu'il arrive. Mais je voudrais juste
revenir. Il y a un peu un discours récurrent, effectivement, sur la crise de l'université, quand même, depuis des années.
Et ce que je voudrais dire, c'est que autant, ça va sans doute le surprendre, mais je pense que Olivier Vial a bien résumé le raisonnement que se fait le gouvernement actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, la réforme qui se met en place est une façon, en fait, de gérer ce flux qu'on aurait pu anticiper, mais qu'on n'a pas anticipé, de bacheliers nouveaux qui arrivent, ce nombre croissant de bacheliers, mais à fond constant. C'est ça, l'objectif du gouvernement. C'est-à-dire de ne pas investir financièrement plus à l'université, mais lui demander de gérer ce flux. Alors, comment on fait ? On
s'aperçoit qu'il y avait 500 millions d'euros supplémentaires sur 5 ans qui étaient prévus
oui,
pour créer des places, recruter des enseignants-chercheurs.
Oui, on rediscutera des chiffres après, si vous voulez. Je finis juste le raisonnement et après on discutera. Je pense que d'ailleurs mes deux collègues auront beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Mais sur le raisonnement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on parle des prérequis. On s'aperçoit que le gouvernement a constaté, comme le disait Olivier Vial, que certaines filières sont très demandées et sont en surdemande en quelque sorte, et d'autres filières sont moins sous pression, même s'il faut relativiser ce propos. Mais en tout cas, l'idée, c'est en supposant qu'il y ait des filières qui soient réellement moins sous pression, il va y avoir un transvasement, si vous voulez. On va glisser, c'est-à-dire les psychologues, par exemple, qui sont débordés de demandes, vont renvoyer leurs étudiants vers la sociologie, vers les lettres, vers le droit, je ne sais quoi. Mais on peut se demander si c'est mieux que du tirage au sort, dans la mesure où ces étudiants vont se retrouver dans des filières qu'ils n'ont absolument pas demandées, etc., etc.
Est-ce que c'est ce que l'on peut considéré comme la sélection par l'échec dont vous avez commencé à parler depuis le début de cette discussion. Georges Haddad, qu'est-ce que ça veut dire la sélection par l'échec pour vous ? Et en quoi ce serait une sélection qui serait pire qu'une sélection par le tirage au sort ?
Non mais je réfute moi cette formule, sélection par l'échec. C'est un échec pour l'enseignant d'accepter cette phrase. Moi, je suis pour que les étudiants réussissent. Mais réussir, ça ne veut pas dire avoir à tout prix son diplôme.
Ça veut dire quoi, réussir,
d'ailleurs, quand on est à l'université ? Réussir, c'est déjà prendre du plaisir, assumer le désir qu'on a d'apprendre. Apprendre à apprendre, apprendre à faire. Vous savez, les quatre phrases du rapport Delors, qui sont quand même très valables aujourd'hui. On va à l'école pour quoi faire ? C'est pas simplement pour avoir un métier ou pour avoir une position sociale, mais pour s'affirmer en tant qu'être humain, en tant que citoyen, actif dans une société. Il faut savoir pour agir pour s'accomplir. Alors moi, la sélection par l'échec, c'est pour moi l'échec du système et d'abord de l'enseignant.
Donc prenons une hypothèse, Georges Haddad. Je prends du plaisir à suivre, par exemple, les enseignements en sociologie, en première année.
Ou en mathématiques.
En mathématiques.
Voilà.
Mathématiques. Vous avez raison.
Je suis plus à l'aise en mathématiques.
Parce que vous êtes professeur des universités en mathématiques. Mais je décide malgré tout, au bout de la deuxième année, de me réorienter. Est-ce que vous considérez que là, je serais un étudiant qui aurait été en échec ?
Non, pas du tout. Je considérerais cela comme un étudiant qui a été en responsabilité et qui a compris que la filière dans laquelle il était ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait faire ou à ce qu'il pouvait faire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le système français, il est trop marqué par une dimension temporelle. Le monde change aujourd'hui. On peut être actif jusqu'à 120 ans. La formation tout au long de la vie, on va changer de métier, on va évoluer. Là, on est toujours dans le système, le bac à 16 ans. L'agrégation à 22 ans, le doctorat à 23 ans. So what ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Donnant du temps au temps. C'est ce que disait le président Mitterrand quand je le rencontrais. Il le disait à d'autres. Il faut repenser aussi les rythmes éducatifs. On n'est plus dans un même monde où justement on vit jusqu'à 40, 50 ans. On est actif jusqu'à 40, 50 ans. Aujourd'hui, l'activité peut se prolonger au-delà, bien au-delà. Et donc, je pense qu'on doit être étudiant tout au long de sa vie, et tout au long de sa vie, se remettre en cause et construire tout au long de sa vie un projet.
Alors, Olivier Vial, je vais revenir vers vous, parce que je sais bien que c'est vous qui avez utilisé cette notion de sélection par l'échec, mais petit détour par Romuald Bodin sur ce chiffre qui est avancé aujourd'hui. Donc, 60%, c'est celui qui est avancé par la ministre de l'Enseignement supérieur. 60% d'échecs en première année. Alors, minoré, selon Olivier Vial. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre ? D'abord, est-ce que, manifestement, il n'y a pas de consensus autour de ce chiffre ? Et qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que, alors, si on reste sur les 60%, 60% d'échecs, est-ce que c'est 60% d'échecs ?
D'abord,
pardon de vous la poser de cette manière.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais d'abord, c'est pas qu'il n'y a pas de consensus sur les chiffres. On peut être d'accord. Alors après, 60 ou un peu plus.
60, c'est parce qu'en fait, elle prend le chiffre à 4 ans. C'est-à-dire qu'on redouble déjà une fois. C'est-à-dire que 60%, c'est de gens qui obtiennent leur licence après au moins un redoublement, puisque normalement, la licence, c'est en 3 ans. Et en 3 ans, on est à 27% de réussite.
Mais en tout cas, on peut rentrer dans le détail de ces chiffres et on s'aperçoit que les choses sont bien plus nuancées et différentes que ce que annonce le gouvernement quand il présente les choses comme ça. Mais il n'est pas le seul. C'était déjà le cas de Geneviève Fioraso et de Valérie Pécresse qui utilisaient la même rhétorique, qui consiste donc à accumuler toute une série d'échecs ou de non-échecs, en tout cas de situations qui ne sont pas du tout comparables. Par exemple, dans ces 60%, vous avez à la fois ceux qui échouent à leurs examens, qui n'ont pas leurs examens, Bon, ça, on peut considérer que c'est un échec au sens classique du terme. Et il y a tous ceux qui sont dits en abandon ou qui décrochent. Et le problème, c'est que souvent, on considère que c'est ces 30%, que c'est à peu près la moitié, hein, qui sont la situation la plus grave, parce que c'est une perte sèche, si je puis dire, pour l'université. En réalité, il y a toute une série d'études, dont celle que j'ai moi-même réalisée, qui montrent que c'est absolument pas le cas. En réalité, ces étudiants-là sont des étudiants qui se servent de l'université pour construire des parcours qui sont des parcours atypiques, qui impliquent toute une série de réorientations et qui, du coup, sont considérés comme des étudiants en abandon. Alors, vous donniez votre propre exemple tout à l'heure, mais on...
C'était hors antenne, mais j'expliquais voilà, que je m'étais inscrit notamment dans une filière à l'université, c'était en maîtrise de Sciences Po, où j'y ai fait quelques apparitions, c'était il y a déjà de longues années de ça, avant de devenir totalement absent, voilà,
et d'aller vers d'autres... Quand on suit les étudiants qui sont dans cette situation, d'abord on s'aperçoit que c'est complètement hétérogène, hein. Dans ces statistiques sont, par exemple, additionnés des étudiants qui sont déjà des étudiants âgés, qui sont salariés, qui sont en reprise d'études pour le plaisir, découvrir le droit, par exemple. C'est un cas que j'ai souvent rencontré, puis qui, à un moment, se désinscrivent parce que ils arrêtent, voilà, ils ont profité de ce qu'ils pouvaient profiter. Il y a des étudiants qui réussissent des concours, il y a des étudiants qui se servent. Alors, c'est très fréquent dans les sciences sociales, en psychologie, en sociologie et en biologie pour d'autres filières, mais c'est des étudiants qui se servent du premier cycle universitaire, de la première année, comme de classe préparatoire. C'est-à-dire, ils se servent de ces premières années pour se préparer à des concours dans l'entrée d'école. Alors, on peut se demander en quelle mesure c'est un échec pour l'université que de préparer ces étudiants à réussir des concours d'entrée dans d'autres écoles.
Alors, Olivier Vial, est-ce que ça ne permet pas d'atténuer peut-être un petit peu le tableau assez noir qu'on dresse en général de l'université, de cet échec en licence, notamment en première année, en se disant que finalement, l'université, elle sert aussi à se trouver et qu'au moins la première année peut servir d'année d'orientation, voire d'année de propédeutique.
C'est un échec du système, parce qu'en fait, quand on regarde les bacheliers...
Sauf si on considère que le système sert à ça.
Non, parce que les bacheliers, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils arrivent à l'université souvent parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. 7 bacheliers sur 10 font le choix d'une filière sélective quand ils s'inscrivaient sur APB. Et ils sont que 4 à pouvoir obtenir ces filières-là. Donc après, effectivement, il y en a 30%, ce qui correspond d'ailleurs à ceux qui abandonnent très souvent, qui se retrouvent à l'université en première année. C'est pas leur choix. Donc effectivement, ils vont chercher tous les moyens, peut-être pour continuer, mais pour essayer de trouver, de revenir dans leur projet professionnel de départ. Et donc, ils vont essayer de trouver les chemins de traverse. Alors oui, ça peut être effectivement, c'est plutôt rassurant de savoir qu'ils finissent par les trouver, mais c'était pas l'objectif. Et c'est pas quelque chose qui est indolore, puisque ça coûte de l'argent aux familles, parce que cette année-là, elle est quand même malgré tout perdue. Si tout de suite, on leur avait donné la possibilité de s'inscrire dans la filière qui leur permettait de poursuivre leur projet professionnel, ils n'auraient pas perdu cette année. Cette année-là, elle coûte de l'argent à l'État, plus de 10 000 euros. Elle coûte de l'argent à leur famille, autour de 5 à 6 000 euros. C'est pas indolore pour...
Mais ça n'est qu'un coût pour vous ? Est-ce que ça...
C'est un coût aussi.
On peut aussi se former pendant cette année-là.
Mais l'échec, c'est très bien à dose homéopathique et pour quelques individus, parce qu'effectivement, ça permet pour certains de rebondir. Mais quand vous demandez, par exemple, si vous inscrivez un pilier de rugby à un championnat de patinage artistique, il y a toutes les chances qui se plantent et qui se plantent régulièrement. Et ben, au bout d'un moment, il va croire qu'il est nul, alors qu'en fait, il aurait été très bon pour faire du rugby. Et petit à petit, on casse la confiance qu'ils ont parce qu'on les a inscrits dans la mauvaise filière, l'endroit où on est sûr qu'ils n'arriveraient pas à réussir.
Georges Haddad, j'ai vu que vous étiez plutôt favorable à une année de propédeutique à l'entrée à l'université. D'abord, est-ce que j'ai bien lu et à quoi c'est quelque chose...
Si elle est nécessaire et si elle est voulue, il est clair que je ne suis pas pour forcer qui que ce soit à passer par cette année propédeutique. Et il faut faire appel à l'intelligence des personnes et des jeunes qui ont une grande intelligence et qui peuvent comprendre que cette année propédeutique peut leur être utile à condition qu'elle soit valorisé et validé dans le cursus. Là aussi, il ne faut pas que ça soit juste une année en l'air pour que ensuite l'étudiant puisse se retrouver un peu désemparé.
C'est un petit peu ce qui est prévu, semble-t-il, dans le projet de loi, même si c'est pas formulé comme ça. Mais il y a l'idée de faire une licence à différentes vitesses, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis également de faire une année de césure tout en ayant le statut d'étudiant.
Oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Mais il y a quand même aussi un vrai problème que vous parlez des bacheliers. Mais attendez, il y a des bacheliers de différents types. Quand un jeune, et je parle d'expérience puisque je suis père de famille, à partir de la seconde, on lui dit tu vas faire un bac S, un bac ES, un bac L, tout le monde accepte. N'est-ce pas de la sélection déjà d'une certaine manière ? Une orientation qui va décider a priori de l'avenir, ou le bac technologique, ou le bac professionnel. Moi, j'ai une de mes filles à qui on avait dit « tu n'auras qu'un bac professionnel ». Je me suis battu, elle a eu son bac ES. Quel est le résultat maintenant? Je le verrai à l'université. Mais là aussi,
pourquoi est-ce que vous êtes battu? Pardonnez-moi,
on est dans une hypocrisie totale. La sélection commence dès le lycée.
Pourquoi est-ce que vous dites pourquoi est-ce que vous dites je me suis battu? C'est-à-dire vous considérez que si votre fille avait fait un bac professionnel, elle n'aurait pas pu derrière poursuivre ses études?
Mais évidemment. Évidemment, et je savais qu'elle avait les moyens de pouvoir avoir un bac généraliste pour ce qu'il vaut, hein, pour ce qu'il vaut aujourd'hui. Et puis il y avait chez elle une telle détresse qu'il était de mon devoir de père. Elle a la chance d'avoir un père universitaire. C'est pas le cas de tous les enfants. Et il faut les soutenir, ceux-là. Hein, ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir un père ou une mère universitaire. Il faut les soutenir. Il faut donner confiance aux jeunes. Mais la confiance est basée sur leur véritable capacité. Prendre conscience de ce qu'on est, de ce que on vaut et comment on va évoluer. Bon, je m'emporte un peu, mais parce que c'est toute ma vie qui est dans tout ça. Ma vie de père et ma vie d'enseignant. Et ça, je ne peux pas laisser cette hypocrisie continuer. La sélection, elle commence dès le lycée et même avant.
Alors, je vais renvoyer d'ailleurs à la réécoute d'une émission qu'on a consacrée il n'y a pas longtemps au Bac Pro, qu'on avait intitulé « Le Bac Pro tiendra-t-il un jour ses promesses ?» Je voyais que Olivier Vial et Romuald Baudin voulaient réagir sur ce sujet. C'est vrai que le Bac Pro, c'est en général l'exemple qu'on met en avant pour justement caractériser ce que serait cet échec massif en première année à l'université.
Parce que pour le coup, il y a deux, là aussi, c'est comme le tirage au sort, le bac professionnel, il est en train de montrer les limites du système. C'est qu'à force de dire que justement tout le monde pouvait rentrer, de ne pas donner les bons signaux et le gouvernement là encore continue dans ce projet de loi à ne pas dire clairement qu'un bac professionnel n'arrivera pas à réussir à l'université, on a quand même des taux d'échec de 97%. 97% de taux d'échec. Donc autant dire, oui, il peut y avoir un ou deux cas qu'on nous montre de temps en temps qui a réussi, mais ça n'existe pas. Et donc c'est des jeunes qu'on va amener dans une filière où ils vont échouer, où on va leur casser le moral, où ils vont avoir des difficultés parce qu'effectivement ils auraient pu faire autre chose et mieux. Et en plus, ça décomplexe le gouvernement qui se dit, ils peuvent rentrer à l'université, donc on leur a proposé quelque chose. Il faut proposer quelque chose qui soit en adéquation avec leurs compétences au bac professionnel et pas essayer de dire encore qu'ils peuvent rentrer à l'université. Et ça, en laissant passer ce message-là, il y a un véritable problème, c'est qu'en 5 ans, le nombre de bacs pro à l'université a augmenté de 20%. 20% de plus de bacs pro à l'université en 5 ans.
Un ancien directeur général de l'enseignement supérieur dont vous avez sans doute entendu parler, Jean-Marc Montel, avait cette proposition il y a quelques années de ça, c'est assez récent. Hein. Il disait, il faut supprimer la sélection à l'entrée des BTS et des DUT. C'est-à-dire non pas mettre davantage de sélection, mais peut-être enlever de la sélection dans des filières comme les BTS et comme les DUT, qui a priori sont destinées justement à ceux qui viennent des bacs pro ou ceux qui viennent des bacs techniques.
Il ne faut pas enlever la sélection, parce que la sélection, c'est ce qui permet de faire la meilleure adéquation entre les compétences et les attendus des diplômes. Il faut simplement créer des places de filières sélectives dans les endroits où il y en a besoin de plus, de façon à ce qu'on continue à aiguiller les étudiants. Parce que même, en faisant de la sélection, on lutte contre l'autocensure, notamment dans les familles les plus modestes, où c'est beaucoup plus simple pour une famille modeste d'accepter d'entreprendre des études longues si quelqu'un, une autorité institutionnelle, universitaire, leur dit « bah oui, vous avez les capacités pour poursuivre vos études ». C'est un moyen de lutter contre l'autocensure. Si vous n'avez pas ce garant, eh ben, c'est beaucoup plus difficile pour des parents de se dire « bon, on va lui payer 2 ans d'études, on n'est pas sûr qu'il va réussir, surtut quand il voit les taux d'échec ».
Donc, quelqu'un décide pour vous que de décider même vous-même pour votre avenir.
C'est quelqu'un qui vous donne les informations. Vous n'avez pas les informations. Il faut quand même une autorité qui vous valide vos informations, qui vous dit « oui, votre parcours vous permettra de réussir ».
Alors, Romuald Baudin et Georges Haddad veulent réagir.
Oui, alors, bon, simplement pour dire que quand on parle de sélection, le discours, il est souvent, il part pas des fondamentaux. C'est-à-dire, la sélection, c'est quoi? D'abord, la sélection, ça n'a jamais permis de sélectionner les meilleurs. La preuve, c'est que il y a de la sélection dans les filières d'élite et il y a de la sélection dans les filières les plus, qui accueillent les étudiants les plus fragiles. En STS, il y a une sélection, il y a un concours à l'entrée et les STS ne recueillent pas les meilleurs étudiants. Bien au contraire, ils recueillent les étudiants les plus fragiles. Ils ont un concours, pourtant, comme les classes préparatoires, comme les grandes écoles. Bon, et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle autant de sélection? Parce que l'enseignement, et ça renvoie à ce que disait Monsieur Haddad tout à l'heure, c'est parce que l'enseignement supérieur, mais toute l'éducation nationale, est obsédée par les classements. C'est-à-dire que tout notre système éducatif consiste à créer des hiérarchies, entre les étudiants. Donc en fait, la sélection ne sert absolument pas à ajuster des étudiants à un niveau scolaire, à des attentes scolaires, mais plutôt à des attentes sociales. Et quand on va vers les filières d'élite, ce qu'on recrute, c'est des étudiants qui sont globalement plus favorisés, plus privilégiés. En insistant sur ces frontières-là, en insistant en mettant de la sélection, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On durcit ces frontières-là, on rigidifie le monde social, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour Macron, en tout cas, qui se revendique au moins d'une inspiration libérale. Il rigidifie donc ces frontières-là et rend de plus en plus difficile la circulation entre ces frontières. Donc, on va recruter de plus en plus clairement des étudiants très privilégiés en haut de la hiérarchie, des étudiants peu privilégiés en bas de la hiérarchie, en oubliant que certains peuvent se tromper de voie et présenter des dispositions, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est des dispositions à réussir dans des filières pour lesquelles, a priori, ils ne sont pas du tout préparés. Et ça, mais on n'arrivera pas à le saisir par la sélection.
Romuald Bodin, où est-ce que vous voyez de la sélection dans ce que propose aujourd'hui le gouvernement? Enfin, aujourd'hui, ça va être dans deux jours, mais bon, on connaît déjà les grandes parties de ce projet de loi, puisque fait l'objet d'une concertation.
À mon avis, il ne faut pas tourner autour du pot, hein, c'est de la sélection, là. Ce que propose le gouvernement, c'est d'introduire.
Il ne le dit pas comme ça, en tout cas.
Bien sûr, il ne le dit pas comme ça pour des raisons qu'on comprend. C'est-à-dire que c'est quand même encore quelque chose.
Donc, avis du conseil de classe, trois réponses possibles par rapport aux candidatures, soit un oui-si, c'est-à-dire assorti de certains prérequis, ou je ne sais pas comment il faut les appeler. Et puis s'il y a un non, il n'y a pas vraiment un non, ça sera en attente.
Mais à partir du moment où on met en place une procédure de contrôle des demandes d'inscription dans une filière, avec la possibilité soit simplement de conseiller, mais évidemment si on conseille, c'est quand on a envie que le conseil soit suivi, et si le conseil n'est pas suivi, d'imposer par exemple...
Il y a des conseillers d'orientation qui font ça, et
de propédeutique.
C'est du conseil aussi.
Ah mais bien sûr, mais le conseiller d'orientation n'est pas censé en quelque sorte noter la qualité du choix, et il lui dit il est possible, enfin, j'espère que les conseillers d'orientation font ça en tout cas, qu'ils lui proposent les filières possibles et qu'ils ne se contentent pas de juger la qualité ou non d'une décision. C'est pour moi de la sélection, d'autant que ce qui risque de se passer, c'est simplement que on ouvre la porte, et que ce qui va se produire progressivement, c'est que si, alors je fais juste une petite parenthèse, je sais que je parle longtemps, mais c'est prérequis, ce qui est censé si j'ai bien compris, chaque établissement et chaque filière vont pouvoir ajuster les prérequis. Donc, ce qui va se passer, c'est une mise en concurrence aussi des filières et des établissements. Donc, il va y avoir encore un durcissement des hiérarchies, avec des filières qui vont bien s'en sortir parce qu'elles sont plus privilégiées, d'autres qui s'en sortiront moins bien.
Et forcément, quand on s'appelle la Sorbonne, on s'en sortira d'autant mieux, Georges Haddad.
Justement, le problème va être plus grave que vous ne le pensez, et je vais l'évoquer parce que je suis un mathématicien, et un mathématicien essaye toujours d'anticiper. D'abord, je voulais dire une chose. La sélection, c'est un mot très français. C'est un problème très français. Je peux vous dire que dans le monde entier, et j'ai fait plus de 172 pays au titre universitaire, jamais le mot sélection n'est prononcé de cette manière. Hein, en France, on est obsédé par ce terme de sélection. Sélection. Partout, vous allez même aux États-Unis, au Canada, on ne parle jamais de sélection. On parle d'orientation, de soutien, d'accompagnement. Mais en France, on est obsédé par la sélection. Alors là aussi, il faut qu'un sociologue ou peut-être même un philosophe, un psychanalyste, essaye de comprendre ce mal français, cette obsession française de la sélection.
Surtout, je disais toujours qu'on parle beaucoup de ce qu'on n'a pas.
Peut-être. Bon, nous avons quand même des grandes écoles qui sont très sélectives, et j'en viens. Hein, donc je ne vais pas cracher sur mon alma mater, bien au contraire. Ce que je voulais dire, prenons un exemple. Quand je présidais la CPU il y a plus de 25 ans...
Conférence des présidents d'université.
D'université, j'étais donc à cette responsabilité. On avait des rencontres très fréquentes avec les directeurs d'IUT, vous savez, les instituts universitaires technologiques, qui avaient vocation à accueillir les bacs technologiques. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disaient de manière récurrente? Les IUT, c'est un grand succès. Nous n'avons que des bacs S. Ça, c'est aussi parce qu'on avait mis la sélection à l'entrée. Il n'y avait pas assez de place. Donc, il y avait l'esprit de sélection. Et donc, les bacs S disaient, on veut aller en IUT. On ne fait pas les classes préparatoires aux grandes écoles pour d'autres raisons. Et après l'IUT, ils faisaient autre chose au niveau universitaire, des parcours plus longs, etc.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il faut enlever la sélection de certaines filières.
Moi, je voudrais qu'on ne parle plus de sélection. Je voudrais qu'on parle
de quoi,
soutien, d'orientation, d'accompagnement. J'ai parlé de mes enfants. Moi, mes enfants, je les force en rien. Je les accompagne. Je les laisse exprimer ce qu'ils ont en eux, leurs talents. Et mon rôle de parent, c'est de les accompagner. Je veux que l'université accompagne les jeunes pour qu'ils se construisent. Et le problème qu'on va avoir, justement, je vais répondre à votre question, les oui si, les oui mais, les oui peut-être, les non, etc. Une université comme Paris 1, qui joue dans l'excellence. Hein. On est quand même une des grandes universités françaises, et je le dis, européennes et mondiales dans les disciplines qui sont les nôtres. Nous allons avoir, là où on aura 1000 places à l'entrée, 3000 ou 4000 huit potentiels. Comment va-t-on faire? On va les tirer au sort? Est-ce que le tirage au sort national d'APB ne va pas être transféré par un tirage au sort local dans des universités qui vont être obligées de le faire? Si demain, en droit, grande discipline, ou en sciences humaines, ou en économie, j'ai 4000 bacheliers en 8 total, et que je n'ai que 1000 places, comment vais-je faire? Qui va m'aider? Qui va me soutenir? Là aussi, c'est une grosse responsabilité qu'il va falloir assumer. Donc alors, transporter ou transposer le problème du national au local, là aussi, ça aura des conséquences.
Olivier Vial.
Oui, deux choses. Effectivement, la sélection, ce n'est pas forcément un classement. Et là, je rejoins
Robert Bonner.
On n'est pas favorable à une société du classement. Le problème de la sélection, c'est effectivement, par exemple, quand vous donnez l'exemple du bac, c'est parce qu'au fur et à mesure des années, on a fait du bac S le bac des meilleurs,
absolument,
pas un bac scientifique. Si on avait une vraie sélection sur les compétences et sur les projets professionnels, on aurait un bac ES qui serait aussi avec un pourcentage de très bon, et ça pourrait effectivement résoudre pas mal de problèmes. Pour finir sur ce que vous disiez sur le projet, moi je suis effectivement très critique, je pense pas du tout qu'on ait une sélection, on a un début d'arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, on a un projet où on est passé d'un tirage au sort aveugle à un système avec trois commissions qui va être extrêmement lourde à gérer et extrêmement bureaucratique, et qui, parce qu'on n'a pas voulu afficher des prérequis...
C'est quand même mieux que de le faire faire par un algorithme, non ?
Si on ne sait pas comment c'est traité, si on ne sait pas quels sont les attendus, et si au final, il y a un jury électoral qui remet les perdants du classement dans n'importe quelle filière, un petit peu en les saupoudrant, je ne suis pas sûr qu'on ait un vrai progrès, surtout que ça va coûter beaucoup plus cher pour le coup. Pour le coup, l'argent qui est annoncé pour la ministre pour tout le plan, il va être totalement vampirisé juste sur cet aspect bureaucratique qui est énorme et qui va finalement, comme un léviathan, manger tout le projet et qui va perturber beaucoup le fonctionnement même des universités, parce qu'aujourd'hui, les enseignants-chercheurs sont noyés sous la bureaucratie depuis des années avec l'ensemble des réformes qui se sont succédées, et en leur rajoutant ça, on les détourne encore de l'enseignement et de la recherche pour des tâches bureaucratiques qu'ils n'ont pas envie d'assumer.
Je le disais en parallèle, et mener une concertation pour réformer le baccalauréat avec parmi les pistes à l'étude, dit-on. Alors, en tout cas, c'est ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Pourquoi pas la suppression des filières? Est-ce que cette suppression-là, ça ne serait pas justement supprimer de la sélection dont vous nous parliez tout à l'heure, Georges Haddad? Est-ce que ça n'aurait pas vocation? En tout cas, est-ce que ce n'est pas une piste qui mérite d'être étudiée pour rendre le système mieux gérable, Romuald Bonin?
Il faudrait voir ce qu'ils veulent dire exactement par suppression des filières. C'était une première
ça,
chose.
Je ne sais pas.
Mais quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas du tout pour la suppression des filières, même si on compare les SPS,
avec des parcours
par exemple,
à la carte,
aux filières universitaires.
Que chaque lycéen puisse choisir, disons, voilà, les matières qu'il va faire, qui est que quelques...
Dans le secondaire.
Quelques rares matières fondamentales, oui, dans le secondaire.
D'accord. Pas nécessairement. En tout cas, il serait effectivement intéressant qu'on puisse discuter de l'enseignement secondaire est structuré en France et la façon dont ces filières sont plus des hiérarchies que finalement des spécialisations. Hein. On sait par exemple que les licences de mathématiques ont beaucoup de mal à accueillir des étudiants parce que justement le bac S filière maths étant au summum de la hiérarchie des baccalauréats. On fait ce bac-là non parce qu'on aime les mathématiques, mais pour accéder aux meilleures places par la suite. Par conséquent, le gros problème, c'est ça, c'est la hiérarchie et c'est cette séparation, je termine juste sur ce point, c'est cette séparation entre des petites filières professionnelles comme les STS, l'université et les grandes écoles. Je pense que si Macron avait voulu vraiment être ambitieux, il aurait remis en question ce découpage qui n'a pas de sens de l'enseignement supérieur. Ça aurait été vraiment ambitieux.
Bon, alors, pour terminer sur une note positive en ce qui me concerne, je pense que cette réforme ou projet de réforme aura le mérite de nous faire repenser, comme je l'ai dit, le lien entre l'université et le lycée. Et la valeur du baccalauréat, sa représentativité, ce qu'il porte en lui. Et effectivement, moi, je Je considère que les humanités sont aussi importantes que les mathématiques, et de grands mathématiciens se sont construits d'abord par la philosophie, par l'histoire, par la sociologie, et se sont révélés ensuite des grands mathématiciens. Moi, je ne suis qu'un modeste mathématicien, mais en troisième, on m'avait dit « tu ne feras jamais de mathématiques ». Parce que le prof n'avait pas su comprendre que j'étais plus un chercheur qu'un quelqu'un qui répondait aux questions. J'étais plutôt dans la révolte. Et c'est ça qui est important aussi. Savoir donner leur chance à ceux qui sont dans la révolte.
Et quand on est mathématicien, Georges Haddad, on aime les chiffres. Et quand on aime les chiffres à la radio, on aime aussi terminer à l'heure précise. C'est la fin de cette émission. Voilà, bon, oui, c'est difficilement amené ce soir. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Georges Haddad, Olivier Vial et Romuald Bodin. Discussion que on peut retrouver sur franceculture.fr. Je rappelle votre livre, Romuald Bodin. L'université n'est pas en crise, aux éditions Le Croquant, c'est sorti en 2013. Voilà, merci à toute l'équipe du Grain.